7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, savez-vous vraiment ce que vous mangez? Quand vous achetez une tomate au marché, surtout si vous connaissez le maraîcher, vous savez à peu près ce que vous achetez. Mais quand vous achetez un poulet dans un supermarché ou un pot de mayonnaise, ça se complique. Les produits de l'agroalimentaire sont de plus en plus complexes, avec des ingrédients qui viennent de plusieurs pays, et ces informations ne figurent pas forcément sur les étiquettes. Nous allons faire nos courses avec Christophe Brusset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien acheteur dans l'industrie agroalimentaire. Vous avez publié un premier best-seller, Vous êtes fou d'avaler ça. Le deuxième épisode est sorti maintenant. Et on mange quoi? Publié chez Flammarion. Également avec nous, Pierre Slamiche, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président, vice-président et cofondateur de l'association Open Food Facts, qui est une association française, contrairement à son apparence.
C'est ça.
Open Food Facts, c'est une association indépendante à but non lucratif et qui renseigne une base de données à partir des infos sur les emballages de tous les produits alimentaires vendus en magasin. C'est une sorte de Wikipédia, c'est ça, de l'alimentaire, pour
oui,
résumer.
On peut dire ça, effectivement.
Et n'importe qui peut être contributeur sur votre base de données partout dans le monde. Donc ouvrez l'oreille, les voisins. Ce sont des infos accessibles sur votre site openfoodfacts.org ou via l'application mobile. En scannant le code barre du produit, c'est très simple quand on fait ses courses dans un supermarché. Et c'est de plus en plus prisé par les jeunes qui ne se séparent jamais de leur smartphone, y compris en faisant leurs courses. Les voisins, les voisines, c'est le moment de nous appeler. Comment choisissez-vous vos produits alimentaires? Sur quels critères? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Comment choisissez-vous vos produits alimentaires? Sur quels critères? On donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les fidèles de la RFI.
Amadou, vous êtes à Conakry, dans les embouteillages, j'ai l'impression. Il y a du bruit autour de vous, des klaxons.
Exactement ça.
Alors, comment faites-vous? Alors, je ne sais pas si c'est vous-même d'ailleurs qui faites les courses, si vous envoyez quelqu'un de la maison, si c'est votre épouse ou un parent, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la famille, sur quels critères on choisit les produits alimentaires, Amadou?
En fait, c'est moi qui fais mes propres courses. Je pars pour faire mes charges et en fait, en première position, je m'intéresse beaucoup au packaging. C'est-à-dire l'hygiène qui est faite autour du produit. C'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Et ensuite, la communication qui est faite autour du produit, c'est-à-dire une publicité faite à la radio, faite à la télé, des affiches publicitaires autour du produit. Ouais. Donc, c'est des éléments qui m'intéressent pour faire mes achats. Et en troisième position,
Alors attendez, la ligne est très mauvaise, Amadou, on a du mal à vous entendre, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Donc si j'ai bien compris, c'est d'abord le packaging du produit, c'est ça, l'emballage, hein, ce qu'on vous promet sur l'emballage du produit, et puis la publicité, c'est ça, hein.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça, l'emballage du produit, la publicité,
d'accord.
Et également les éléments qui composent le produit.
Et également quoi?
Les éléments qui composent le produit, les composants qui...
Ah d'accord, vous regardez quand même la composition du produit. D'accord.
Oui, c'est ça. En fait, moi j'évite beaucoup les produits qui contiennent des éléments gras, mais également des produits très sucrés.
D'accord.
C'est nuisible pour ma santé.
D'accord, très bien. Merci Amadou pour ces trois critères, donc hein, le packaging, la publicité et la composition. Est-ce que ça correspond finalement assez avec l'attitude d'un consommateur de base, en tout cas avec ce qui est disponible, Christophe Brusset?
Bah écoutez, oui c'est vrai, effectivement les gens regardent ces paramètres, mais il faut quand même savoir qu'encore aujourd'hui, partout dans le monde, hein, l'Afrique je connais moins, mais je suppose que c'est la même chose qu'en Europe, le critère numéro un reste quand même le prix. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'achat agroalimentaire sans d'abord regarder le prix du produit. Donc, le prix est vraiment un paramètre extrêmement important. Ensuite, effectivement, les consommateurs vont regarder comment est l'emballage. Est-ce qu'ils connaissent la marque? Parce qu'un produit qui est connu, qu'on voit à la télé, est plutôt rassurant. Hein, il y a une proximité, on a plutôt confiance dans quelque chose qu'on connaît. Et ensuite, alors effectivement, on s'intéresse à l'emballage et à la composition.
Plusieurs collègues à RFI m'ont entendu annoncer le sujet de l'émission et m'ont dit « mais avec ce genre d'émission, on ne mange plus rien ». En clair, les gens en sont arrivés à un niveau où ils considèrent, en tout cas en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays très développés, qu'être informé ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis il y a une autre tendance encore minoritaire, c'est celle qui veut en savoir encore plus. Pierre Slamiche, est-ce que vous êtes d'accord avec parfois ce rejet de l'anxiété?
Alors, c'est pas contradictoire en fait. C'est toujours très intéressant d'être informé sur ce qu'on mange, de mieux s'informer avec des outils comme le Nutri-Score ou les groupes Nova. Mais il faut effectivement pas non plus tomber dans la psychose. Donc, on peut justement s'informer, c'est une manière de réorienter ses achats, de choisir de meilleurs produits, de pouvoir les comparer entre eux. C'est pas forcément quelque chose de négatif.
C'est un mouvement qui globalement quand même gagne du terrain.
Oui, totalement. Les gens veulent en savoir plus.
Toutes les études le disent.
Les gens veulent en savoir plus. Ils ont de moins en moins confiance. Donc, il est important qu'ils puissent s'informer et puis puissent comparer simplement les produits entre eux. Oui.
Vous citiez le Nutri-Score. Vous pouvez nous dire exactement ce que c'est et pourquoi c'est toujours pas obligatoire directement lisible sur l'étiquette. Pourquoi il faut utiliser un smartphone? Pourquoi il faut utiliser Internet pour avoir accès à ces informations-là?
Alors le Nutri-Score, en fait, c'est un travail de recherche du professeur Hagberg, donc un scientifique, et c'est une note très simple de A à E qui, en fait, indique, donne une information très claire sur la qualité nutritionnelle d'un produit. Donc A, c'est un produit avec donc qui est pas trop gras, qui est pas trop salé, pas trop sucré, et E, ça va être la, entre guillemets, la pire note, et donc ça permet très aisément de comparer les produits, c'est calculé à partir du tableau nutritionnel, et ça donne une note que même un enfant de 10 ans peut comprendre.
Trop schématique, disent les fabricants de l'industrie agroalimentaire.
Ça a le mérite, quand on est dans son rayon de supermarché, de pouvoir choisir, par exemple, des biscuits qui sont légèrement moins gras, moins salés que les biscuits d'à côté. Donc ça permet vraiment de faire des choix de manière rationnelle. Par contre, effectivement, ce Nutri-Score n'est pas obligatoire et donc il va falloir passer, par exemple, par l'application d'Open Food Fact, où on le calcule de manière citoyenne, c'est-à-dire que des contributeurs saisissent les informations et on recalcule le Nutri-Score pour tous les produits du monde, donc que ce soit des produits transformés en France, en Amérique du Nord ou dans l'ensemble des pays du
monde. Alors tous les produits ne sont pas référencés encore, bien évidemment, puisque l'association a été créée il y a quelques années. Ça marche avec du bénévolat.
Oui.
Exclusivement.
On est tous bénévoles.
Comme Wikipédia, finalement.
C'est ça, des bénévoles du monde entier, en fait, qui vont prendre leur téléphone, scanner des produits, donc effectivement obtenir le Nutri-Score s'il est disponible, et sinon prendre des photos et de manière citoyenne contribuer à la transparence alimentaire.
Vous êtes venu avec un pot de quelque chose, là.
Je suis venu avec un pot de nouilles.
Pour ceux qui nous regardent en vidéo, en direct, en même temps.
Voilà, un pot de nouilles instantanées. Donc, très simplement, on peut scanner le code barre du paquet et obtenir des informations qui ne sont pas forcément sur l'emballage. Donc là, par exemple, j'ai un Nutri-Score de D sur le produit, et également un groupe Nova, donc sur la transformation des aliments, qui est de 4.
Comment on obtient ces informations qui ne sont justement précisément pas sur l'emballage?
Alors en fait, c'est une démarche citoyenne, donc on récupère les informations qui sont sur l'emballage et on réapplique des formules scientifiques, celle du professeur Hagberg pour le Nutri-Score et celle de l'équipe de recherche brésilienne pour le Nova-Score, et on peut recalculer cette note, même si le fabricant ne l'affiche pas sur son emballage.
En train de nous dire, c'est que sur les étiquettes, sur la composition, on n'y comprend rien, nous les profanes.
Ah bah, c'est clair que c'est assez compliqué de lire un tableau nutritionnel.
Là, c'est écrit tout petit.
Donc. C'est écrit tout petit. Il faut être nutritionniste. Là, l'avantage du Nutri-Score, c'est que A à E, tout le monde comprend.
En même temps, Christophe Brusset, on a 6% des produits qui sont considérés comme impropres à la consommation. Ce chiffre, d'ailleurs, vous le dites, est à peu près stable dans un pays comme la France. Alors, dans le fond, où est le problème ? Il n'y a rien de dramatique.
Le chiffre que vous citez, en fait, le 6%, ça correspond au nombre de fruits et légumes frais. Donc on parle de produits frais, pas de produits transformés. Donc de fruits et légumes au rayon frais de votre supermarché qui contiennent plus de pesticides que la norme autorisée. Et il faut savoir aussi que 2% des produits en rayon en France, 2%, contiennent des pesticides interdits en France pour des produits origine France. Donc ça, c'est la situation au niveau des produits frais. Juste pour rebondir à ce que disait Pierre, c'est vrai que il faut bien comprendre qu'il n'est pas dans l'intérêt des industriels d'être transparent sur la liste d'ingrédients, sur le profil nutritionnel des produits. Donc, tout est fait pour rendre l'information la plus difficile à lire et à comprendre. C'est pour ça que des applications comme Open Food Facts sont extrêmement utiles. Le Nutri-Score aussi est extrêmement intéressant puisqu'il permet de permettre aux consommateurs de comprendre immédiatement quelle est la qualité du produit, au moins l'aspect nutritionnel. L'industriel, au contraire, il va vous inonder d'informations en disant « voilà, vous voulez de l'information, je vais vous en donner, mais bon courage à vous pour le comprendre. On va vous donner des données en kilocalories ou en kilojoules, qui ne parlent à personne. On va vous donner des informations par portion, par 100 grammes. » Donc, vous pouvez prendre deux pots de nouilles.
Leur argument, c'est de dire on est précis de cette manière-là.
Mais c'est un contre-argument, c'est-à-dire qu'ils sont tellement précis, ils donnent tellement d'informations que le consommateur ne peut pas comprendre. Le Nutri-Score est une simplification et Open Food Fact vous dit voilà, très clairement, c'est bleu, enfin c'est vert, c'est orange, c'est rouge, et où ça va de 1 à 4. Voilà.
L'agroalimentaire dit c'est pas à nous de faire de la pédagogie, grosso modo, et c'est vrai.
Bah, l'agroalimentaire vous dit moi je suis il y a une épidémie d'obésité, il y a du diabète qui augmente, il y a 50% de gens en surpoids en Europe, il y a 20% d'obèses, ça continue d'augmenter, donc le diabète de type 2 explose, les maladies de Nash, les maladies de Crohn, enfin il y a une épidémie de maladies liées à l'obésité et l'industrie de la malbouffe vous dit on n'est pas responsable. D'accord, mais qui est responsable dans ce cas-là? Alors c'est qui? C'est le consommateur qui ne mange pas ses 5 fruits et légumes par jour bourrés de pesticides et qui ne fait pas ses 30 minutes de marche par jour. Pour moi, je suis industriel. Encore aujourd'hui, je suis industriel. Je sais très bien que les produits de l'industrie sont nocifs parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques. Ils sont extrêmement déséquilibrés parce qu'ils contiennent trop de sucre, trop de sel. Enfin bref, on fait des produits qui sont malsains et qui sont directement responsables des épidémies actuelles liées à la malbouffe.
Alors, vous balayez quelques idées reçues sur les achats alimentaires, hein, puisque c'est bien de cela qu'on va parler dans cette émission, c'est essayer de comprendre comment le consommateur a accès à la transparence alimentaire. Les premiers prix sont de bonnes affaires. Vous vous dites c'est faux. Toujours ?
Les premiers prix, en fait, le produit alimentaire, le prix sera toujours lié à la qualité. Il ne faut pas espérer avoir la meilleure qualité dans les premiers prix. Donc, je sais que c'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre, mais la qualité a un prix. Moi, je suis acheteur professionnel de produits alimentaires. Quand j'achetais n'importe quel produit, les produits de meilleure qualité étaient forcément les plus chers. Donc, ce pourquoi je milite, c'est d'éliminer certains produits chers de son alimentation, de consommer moins de viande, par exemple, et d'aller vers des produits moins transformés, moins industriels, donc qui seront mieux classés dans le classement Nova, par exemple, et de se mettre à les cuisiner, de contrôler ce qu'on met comme additif, comme taux de sel, etc., de se réapproprier sa nourriture plutôt que faire confiance aux industriels qui, eux, ne pensent qu'à leur profit.
Autre idée reçue que vous souhaitez balayer, la réglementation protège le consommateur. Alors c'est quand même un peu dur à entendre quand vous nous dites qu'il faut se méfier de la réglementation, sachant que les industriels disent que les normes ont acquis des niveaux absolument délirants aujourd'hui. Les industriels disent que c'est compliqué et que donc, notamment les PME d'ailleurs, et vous, vous nous dites non, la réglementation ne protège pas le consommateur.
Bah, comme on dit en anglais, bullshit. C'est-à-dire, en fait, non, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une collusion certaine entre les pouvoirs politiques et les industriels. Aujourd'hui, on a quasiment 400 additifs autorisés. On a des auxiliaires technologiques qui ne sont même pas sur les listes d'ingrédients qu'on peut utiliser.
Additifs, juste une parenthèse.
Alors, les additifs, ce sont tout ce qu'on ajoute à la nourriture, qui n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture, mais on l'ajoute à la nourriture.
Donc, pour changer son goût.
Pour la colorer, il y a les E100, il y a les colorants, les texturants, les stabilisants, les édulcorants intenses, enfin vous avez plein de catégories comme ça, pour transformer le produit alimentaire. Les auxiliaires technologiques, ce sont des additifs mais qui ne sont pas déclarables, c'est-à-dire qui servent à l'industriel dans son process. Pareil, vous en avez quasiment 400. Alors vous avez il y a 17 catégories, donc vous voyez, ils sont nombreux. Il y a des antimotants, il y a des solvants organiques qui permettent d'extraire les huiles, par exemple. Et ces ingrédients-là ne sont pas déclarés dans la liste d'ingrédients. Donc, quand on vous dit qu'il y a trop de normes, ce n'est pas vrai. Il y a du laxisme et ça va toujours dans le sens de l'industriel. Juste une petite remarque pour finir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le Nutri-Score, les parlementaires français ont refusé de le rendre obligatoire en mai 2018. Quand la question leur a été posée au Parlement, certains députés voulaient le rendre obligatoire en disant « voilà, les consommateurs veulent savoir, le Nutri-Score c'est quelque chose de simple, de compréhensible, ça va aider les consommateurs ». Et notre ministre de l'Agriculture, donc Stéphane Travert, le bien nommé, a dit « mais non, c'est trop contraignant pour l'industriel ».
Pierre Slamiche.
Nous, ce qu'on constate sur Open Food Facts, c'est qu'effectivement, les additifs vont se cacher sous de multiples synonymes. Donc nous, on essaye de les déchiffrer et de les rendre lisibles par tous. Et sur la réglementation, effectivement, si les industriels ne sont pas contraints, ils ne vont pas les afficher sur les étiquettes. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la réglementation européenne est assez contraignante. Donc on va avoir les acides gras saturés et tous les détails du tableau nutritionnel. Par contre, dès que ce n'est pas obligatoire, notamment sur de nombreux produits africains qu'on a dans Open Food Fact, on va avoir des informations manquantes parce que ce n'est pas obligatoire.
Exactement.
Évidemment, donc ça revient au problème de la réglementation, des déréglementations plutôt, en fonction des continents, en fonction des pays. Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Claude qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Claude.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un consommateur très attentif, je crois.
Oui, comme tous les autres en fait. je suis pas exceptionnel, je suis comme tous les autres. Merci et pardonnez-moi, je voudrais saluer votre invité et saluer vos standardistes et tous vos techniciens. Vraiment, je suis heureux de repasser dans cette émission.
Eh bien, merci à vous,
alors,
on est ravis.
Comme vous le disiez, oui, je suis un peu attentif à ce que je prends, oui, un peu attentif comme tous les autres. Tout simplement parce que, comme je le disais hors antenne, ma santé y va, celui de ma famille également.
Vous faites vos courses dans des supermarchés principalement, c'est ça, à Douala ?
Pas principalement, mais très souvent, oui.
Oui.
Très souvent, parce que en fait, la raison simple, c'est que j'ai des produits, j'aime bien des produits de qualité.
Oui.
Des produits contrôlés et j'estime que je donne la conscience quelquefois.
C'est ça, vous avez quand même vous avez l'impression qu'il y a plus de sécurité dans les supermarchés, en tout cas pour ce qui concerne le continent africain. Et raison que vous vous rendez dans des supermarchés. Du coup, comment faites-vous pour choisir vos produits? Jusqu'où va votre vigilance?
Oui, quand j'arrive, je regarde des étiquettes. Je regarde l'étiquette, je lis un peu la composition, bien que quelquefois ça peut être trompeur, mais je lis les étiquettes quand même tout de même. Et puis je regarde le prix et j'essaie de regarder si ça n'a pas trop de graisse ou alors trop de sel. Bref, je regarde tout ce qui peut être nuisible à ma santé, le taux de sucre. Sachant que j'ai une limite de taux de sucre qui est à 25%, bon, j'essaie de regarder. Je compare certains de ces produits qui sont de la même qualité, je les compare. Et à la suite, si...
Alors, vous avez dit au standard que vous allez jusqu'à appeler des producteurs.
Si, je l'ai fait. Par exemple, je disais aux antennes que j'avais besoin des œufs. Et lorsque je suis arrivé à prendre des œufs, je ne savais pas si c'était des œufs très frais. Alors, je me suis posé la question, quel est le numéro de cet œuf? Et tout à coup, j'ai vu le numéro du producteur de ces œufs, dont j'ai appelé, et pour qu'il me rassure sur la qualité. Au bout de notre discussion, je n'ai pas été rassuré et je n'ai pas pris de ces œufs.
Ah, d'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que le producteur n'a pas été capable de vous de fournir les réponses dont vous aviez besoin. C'est ça sur la date de pente. C'est ça, vous demandiez tout simplement
La date de pente et le numéro. C'est-à-dire, vous savez, sur certains œufs, je ne vous apprends rien, sur certains œufs, on les numérote, c'est numéroté de 0 à 4. Et vous savez que les œufs de 0 à 2 ou de 0, 1 et 2 sont des œufs encore plus frais. Et vous savez que vous avez une limite précise à les consommer. Et quand ce n'est pas inscrit, ça sème du doute. Et là, j'ai eu du mal avec le responsable.
Alors évidemment, d'un pays à l'autre, ça change. Hein, mais merci en tout cas, Claude, de nous avoir appelé. Sur les œufs, Christophe Brusset, sur le choix des œufs, les étiquettes, en tout cas l'emballage, le discours marketing peut être assez trompeur.
Oui, alors je suis pas un spécialiste des œufs. J'ai acheté beaucoup d'œufs, mais des œufs entre guillemets
pour des processus industriels.
Des œufs liquides. Voilà, j'ai acheté des camions citernes de jaunes d'œufs pour faire des mayonnaises, par exemple. Donc je connais un petit peu ces produits-là. Les œufs frais, je suis un peu moins spécialiste. Alors je sais qu'il y a beaucoup de communication autour sur les œufs de plein air, le libre parcours, etc. Personnellement, je suis assez sceptique par rapport à tout ça. Donc
nous, sur Open Food Fact, du coup, on a des contributeurs qui collectent justement ces petits codes mystérieux qu'il y a sur les œufs.
Mmh. Et on essaye. Les fameux numéros.
les fameux numéros, donc il y a effectivement une indication sur le mode d'élevage, en plein air, en cage, etc. Donc ça donne également une indication sur le bien-être animal, et aussi ça donne des informations sur la localisation du poulailler. Donc les systèmes varient de pays en pays, mais on essaye de collecter ces informations de manière à ce que justement il n'y ait plus forcément besoin d'appeler le producteur, mais qu'on puisse directement avoir l'information depuis son smartphone.
Alors l'œuf, c'est quand même un produit, bon, c'est pas un produit transformé, évidemment, sur le produit, il peut l'être, hein.
Oui, tout à fait.
L'œuf dans sa coquille.
Ah, dans sa coquille, non.
Enfin, d'accord.
Hein. Après, ça dépend de la nourriture aussi que vous donnez à la poule.
Là, quand même.
La nourriture que vous donnez à la poule aura une incidence sur l'œuf. Moi, je sais que, par exemple, que vous pouvez donner de l'alimentation avec du bêta-carotène, enfin, ou des colorants pour avoir le jaune d'œuf bien jaune. C'est pour ça que vous avez un jaune d'œuf bien jaune. C'est pas tout à fait naturel.
Et on a eu aussi ces crises liées au fipronil, par exemple, à des insecticides et sur des choses.
Un antipou.
Et moi, quand j'achetais du jaune d'œuf en liquide pour faire ma mayonnaise, mon jaune d'œuf était traité pour récupérer l'isozyme de l'œuf. Donc, vous voyez,
c'est au pot de mayonnaise que je voulais en venir, quand on parlait de produits de plus en plus complexes. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un pot de mayonnaise vendu dans un supermarché, quel est le degré de complexité du processus et la diversité géographique et donc la difficulté à vérifier la qualité du produit ?
Alors pour la mayonnaise, c'est un produit un peu particulier parce qu'en France, notamment, enfin je sais que pour le territoire français, la mayonnaise est très réglementée. Comme c'est un produit, on va dire, traditionnel. Donc pour faire une mayonnaise, vous devez avoir 80% de matière grasse, vous devez avoir, alors je ne sais plus, 7 ou 8% minimum de jaune d'œuf. Donc l'appellation mayonnaise en France est très réglementée. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et là, la recette est assez figée. Donc les additifs sont prohibés, etc. Après, vous pouvez jouer sur les mots. Vous ne pouvez pas faire une mayonnaise, mais une sauce
mais
type
on
mayonnaise.
On peut avoir des œufs qui viennent pas du tout de France, par exemple.
Moi, quand je faisais de la mayonnaise, j'achetais beaucoup d'œufs en Hollande, par exemple. La Hollande est un gros pays producteur, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Donc oui, les œufs voyagent, oui, bien sûr.
D'où le problème du fipronil et du fameux scandale qu'il y a eu. C'était en 2000.
Ah, c'est tout récent, c'était quand 2017.
Me semble-t-il. Oui,
mais c'est là où votre auditeur a parfaitement raison. Si l'information sur la provenance des œufs n'est pas affichée sur l'emballage, il faut directement le demander au producteur. Et puis,
il faut avoir le temps hein, quand même.
Oui, c'est vrai.
Alors, votre dada, c'est le miel, Christophe Brusset. La Commission européenne reconnaît qu'un miel sur trois vendu en grande surface est un miel frauduleux. Ça veut dire quoi ?
Bon, en fait, c'est facile. Moi, j'étais acheteur pour un des plus gros importateurs français de miel et je répondais aux appels d'offres de la grande distribution française en marque distributeur. Donc, j'avais des demandes de certains clients qui me demandaient 400 tonnes de miel en pot de 1 kg, par exemple. Et les prix qui m'étaient demandés faisaient qu'on ne pouvait pas proposer du vrai miel à ce prix-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait du miel chinois, entre guillemets, hein, donc des produits fabriqués en Chine, qui était en réalité un assemblage de sirop de sucre, colorant, arôme. Qu'on conditionnait
donc, pour. Pas de miel du tout.
Pas de miel du tout.
Rien provenant des abeilles.
Non, ça n'avait jamais vu une abeille, ni de près, ni de loin. Donc c'était des produits complètement artificiels, fabriqués en Chine, importés en très grosse quantité, à des prix imbattables, hein, puisque moi j'achetais ça moins d'un euro du kilo. Donc vous voyez, hein, pour du miel, on sait très bien que c'est impossible. Et ensuite c'était revendu à la grande distribution. Mais ça, c'était, je vous parle, j'ai commencé à faire ça il y a peut-être plus de 10 ans.
Du miel,
ça existe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui se pratiquait avant que moi je m'en occupe, qui s'est pratiqué bien après et qui se pratique encore aujourd'hui.
Comment c'est possible ?
C'est possible parce que, en fait, les autorités.
C'est quoi les trous dans le filet, là ?
C'est que les autorités.
De la certification, de la norme.
Tout le monde le sait. C'est-à-dire que les professionnels le savent, nos clients le savent, puisqu'on est transparent avec nos clients. Les professionnels du miel, les apiculteurs, le CETAM, le Centre technique apicole de la Moselle, enfin, tous les professionnels le savent. On sait très bien, la plus grosse fraude aux États-Unis concernait du miel importé de Chine, donc tout le monde sait très bien que le miel chinois n'est pas du miel. On sait en plus qu'il n'y a quasiment plus d'abeilles en Chine, tellement c'est un pays qui est pollué.
Sauf que le consommateur ne va jamais voir miel de Chine sur le pot.
Non, mais justement, en fait, le problème, c'est que...
Vous parlez même d'un miel avec un miel chinois avec un certificat d'origine argentine.
Argentine, Vietnam, oui, bien sûr. Il n'y a rien de plus facile que recevoir un conteneur de miel chinois dans n'importe quel pays un petit peu laxiste et de réobtenir un certificat d'origine pour le réexpédier. Je vous dis, la plus grosse fraude aux États-Unis, c'est un courtier allemand, qui était un de mes fournisseurs, justement, qui expédiait aux États-Unis du miel chinois qui faisait transiter par l'Argentine, par le Vietnam, pour en changer l'origine. Parce que les États-Unis avaient mis en place des droits de douane sur le miel chinois contre le dumping social. Donc pour contrer ça, il est passé par d'autres pays avec des faux certificats d'origine. Ils se sont fait attraper. Donc les personnes, le bureau américain qui était à Chicago de ce fournisseur allemand a été fermé. Les personnes ont été arrêtées. Et ça a été la plus grosse fraude en valeur de toute l'histoire des États-Unis sur les produits alimentaires.
Les produits, les ingrédients chinois, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le pays qui pose problème dans nos assiettes ? C'est... Et est-ce qu'ils sont partout aussi dans nos assiettes ?
Bah, il faut savoir que la Chine, c'est aujourd'hui le premier exportateur mondial de miel. C'est le premier exportateur mondial de concentré de tomates. C'est le premier exportateur mondial d'ail en poudre. De cèpes, de jus de pomme.
Oui. Enfin, les fameux Chine... champignons sauvages vendus au rayon surgelé.
Exactement, oui. Oui.
Proviennent
la plupart des cèpes
d'ateliers donc... chinois assez exactement. Douteux, dites-vous.
Oh bah oui, pour le moins, oui, ça, effectivement. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que moi j'achète
ça des. Ça peut être quoi à la place du champignon lui-même ?
Ça va être du champignon, mais ça va être du champignon bourré de verre, ça va être une qualité très inférieure.
Des vers dans le champignon ?
Oui, mais ça reste.
Qui passent ensuite dans un processus de congélation ?
Oui, donc ça fait des vers surgelés. Oui, mais c'est un produit naturel qui pousse dans la forêt, donc qui est contaminé par des vers.
Pourquoi et
qui, pas ? Ouais. Qui se... À la rigueur, voyez, pour moi, c'est.
En réalité, là, le risque sanitaire, il est inexistant.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que manger des vers, à la rigueur, vous mangez une cerise avec un verre, vous n'allez pas en mourir. C'est beaucoup moins grave pour moi que de manger un produit comme ces nouilles déshydratées qui sont bourrées d'additifs.
Sauf qu'il y a quand même un problème de transparence alimentaire. Le consommateur ne sait pas en achetant des champignons surgelés qu'ils viennent de Chine et qu'ils sont bourrés de verre.
Exactement.
Et il n'a aucun moyen de le savoir,
là,
Pierre Slamich.
Là, effectivement, c'est aussi le rôle des autorités sanitaires de chaque pays de faire des contrôles, etc. Les applications, toutes ces applications qui permettent de scanner les produits, etc., sont limitées à ce qu'il y a sur les emballages, ce que les fabricants veulent bien dire.
Là, par exemple, avec votre site Open Food Facts, là, vous pouvez rien faire.
On peut déjà
sur
commencer...
Sur le miel importé de Chine,
Sur le miel importé de Chine, on va mettre miel UE et non UE, et dès qu'il y aura la provenance, on l'indiquera. Si après, les producteurs falsifient les certificats, etc., il y a effectivement quelque chose du côté des pouvoirs publics à faire. Sur la Chine, nous, on a des bénévoles, des contributeurs chinois qui aussi importent chaque fois qu'ils rentrent, qui habitent en France et en Europe, et qui, chaque fois qu'ils rentrent en Chine, ramènent du lait infantile pour leurs amis, pour leur famille, parce que les consommateurs chinois sont aussi préoccupés par la qualité
sur le lait infantile.
De ce qu'ils mangent.
Ouais,
tout à fait. Ça fait suite au scandale du lait mélaminé en Chine, c'était, si je me rappelle bien, en 2008, où il y avait effectivement un gros scandale. Tous les laits en Chine, tous les fabricants mettaient de la mélamine, donc un produit chimique, dans le lait infantile.
Et ça a laissé des traces. Lactalis en sait quelque chose pour son lait infantile contaminé à une salmonelle. En même temps, quand on voit la peur vraiment omniprésente dans l'agro-industrie du scandale alimentaire, pourquoi prendre tant de risques ?
Bah écoutez, ça dépend en fait. Quand vous avez une contamination type Lactalis, par exemple, pour ne pas les nommer, où on a un problème sanitaire, etc., c'est entre guillemets un accident. Par contre, ils ne prennent aucun risque à mettre les additifs. C'est autorisé, c'est légal. Donc à la rigueur, vous pouvez avoir une liste d'ingrédients longue comme le bras. C'est autorisé, c'est légal. Personne, à la rigueur, on va dire que c'est un produit de pas de très bonne qualité, mais on n'en parlera pas à la radio, il n'y aura pas de scandale lié à ça.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Les voisins, savez-vous vraiment ce que vous mangez? Et puis comment choisissez-vous vos produits alimentaires? On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de RDC. Bonjour Gaël. Allô Gaël, êtes-vous toujours en ligne avec nous? Ah, peut-être qu'il est parti, on l'a laissé un peu patienter, je m'en excuse d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal de questions aussi à poser à nos invités. On essaye de vous rappeler, Gaël est dans le sud de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Est-ce que l'Afrique est vraiment la poubelle de l'agroalimentaire avec ses prix plus bas et ses réglementations faibles? Christophe Brusset.
Bah écoutez, oui et non, mais pas spécialement. Tous les pays à bas revenus sont effectivement la cible pour les produits les moins chers et donc les plus frelatés ou de plus mauvaise qualité. On voit aujourd'hui que les Chinois envoient tous leurs concentrés de tomates de mauvaise qualité sur l'Afrique, parce que malheureusement les gens n'ont pas les moyens de se payer une qualité bien supérieure.
Mais ça concerne aussi d'autres produits. Est-ce que
ça concerne tous les produits, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des fabricants de l'agroalimentaire européens ou américains, enfin principalement européens, qui vendent dans les supermarchés africains des produits différents et qui profitent de la faiblesse de la réglementation sur le continent africain?
Alors nous, sur Open Food Fact, on a constaté ça en fait, parce que du coup on a des produits, on a les différentes versions des produits partout dans le monde. Donc par exemple sur un soda à l'orange d'une marque célèbre, on a constaté que les taux de fruits changeaient de pays en pays. Mm-hmm. C'est-à-dire au sein de l'Europe, parmi les continents, on passe de 0% de fruits à 10% de fruits dans certains pays.
À propos des jus de fruits, évidemment on va en parler. On a retrouvé notre auditeur Gaël à Lubumbashi. Bonjour Gaël.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors Gaël, dites-nous comment vous faites vos achats alimentaires. Je crois que vous avez un gros doute sur un aliment en particulier que vous achetez au marché ou chez un commerçant, je ne sais pas bien Gaël.
Oui, bon, c'est dans un supermarché. Hein, oui. On achète par exemple le cervelas.
Du cervelas.
Hein. Mmh. Sur l'ingrédient, vous trouvez que c'est écrit que c'est fabriqué à base de la viande du porc. Oui. Alors, quand vous consommez, vous sentez même le goût que c'est du poulet.
Ah.
Donc, le cervelas n'est pas fabriqué réellement à base de la viande du porc.
Mais il est écrit, fabriqué à base de porc. Alors, je ne sais pas que signifie dans la langue agro-industrielle à base de, d'ailleurs. On va poser la question à Christophe Brusset. Restez en ligne avec nous, Gaël.
Sur l'ingrédient, on dit c'est fabriqué avec la viande du porc.
Avec. Oui. Non, parce que la langue française...
C'est ambigu.
Ça a des ambiguïtés, d'ailleurs, toutes les langues hein, dans l'agro-industrie. Hein.
Oui, mais bon, si on dit que le produit contient du porc, il doit y en avoir. Après, si on ne met pas pur porc, le terme pur, souvent on voit saucisson pur porc, ça veut dire que ce n'est que du porc. Il ne peut pas être mélangé à autre chose. Après, si on met à base de porc, ça veut dire que c'est essentiellement du porc et éventuellement avec autre chose. Mais on doit le marquer dans les ingrédients. S'il y a du poulet, on doit marquer poulet, volaille, voilà. Ça doit être indiqué. Ceci dit, une petite parenthèse, on a vu avec l'affaire des lasagnes au cheval, l'affaire, la fameuse affaire Fanus, que c'est pas parce que c'est marqué bœuf que ça en est réellement, ça peut être du cheval. Mais on avait eu quelques années avant, en 2007, l'affaire aussi des lasagnes de chez des raviolis Leader Price, où là aussi on avait des raviolis soi-disant au bœuf qui étaient en réalité à la volaille.
Qui là, pour le coup, ne pose pas de question de scandale sanitaire, hein, mais pose la question de la transparence alimentaire laquelle le consommateur est aujourd'hui de plus en plus attaché.
Mais là, c'est une fraude. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'on vous vend un produit haut de gamme, du bœuf ou du porc qui vaut un certain prix, et on vous le remplace par un produit moins cher.
Alors,
c'est du vol.
Gaël, c'est ça, et on est bien d'accord. Et Gaël, vous avez une question d'ailleurs là-dessus, sur les organismes de contrôle. Gaël, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous ? Oui, Gaël, vous avez une question pour nos invités sur les organismes de contrôle.
Oui, en fait, ma question, je veux savoir une chose. Il y a un organisme international qui contrôler tout le produit que nous consommons. Hein, donc, savoir réellement ce qu'on fait sur les ingrédients, si c'est la réalité de ce que ce produit contient.
Très bien, merci beaucoup Gaël de nous avoir appelé. Bien sûr, vous continuez de nous appeler pour questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71 pour qu'on comprenne mieux ce que l'on mange exactement. Est-ce qu'il y a un organisme de contrôle avec une dimension internationale sur l'alimentation ?
Non, puisqu'en fait, les législations sont nationales. Donc chaque pays a son organisme de contrôle. Il peut y en avoir plusieurs. En France, vous avez par exemple les douanes qui s'occupent des produits importés. Vous avez la DGCCRF et vous avez aussi les services vétérinaires. Donc voilà, les fraudes. Donc chacun a un petit peu sa spécialité. Dans d'autres pays, ça va être un peu différent. Et ils sont censés faire appliquer la réglementation qui s'applique localement. Alors bien sûr, en Europe, on a des règles communautaires qui devraient s'appliquer dans tous les pays de la même façon. Donc il y a une certaine harmonisation. Mais après, dans d'autres pays ou dans d'autres zones, vous avez des règles différentes avec des additifs qui peuvent être différents, des habitudes différentes et aussi un niveau d'exigence qui va être différent. Une petite parenthèse juste pour vous amuser, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, les organismes de contrôle sont assez efficaces et ils font bien leur travail, on va dire. Donc, quand j'importais, moi, des produits qui étaient relativement, entre guillemets, un petit peu douteux, je les faisais arriver plutôt à Rotterdam, en Hollande, ou alors à Anvers, en Belgique. Parce que les niveaux de contrôle de la Hollande ou de la Belgique, à l'époque où j'importais,
ensuite vous êtes dans l'Union, donc
étaient inférieurs. Donc,
moins susceptibles d'être contrôlés ensuite.
Moins de contrôle et des contrôles moins efficaces. Enfin, du laxisme.
Parce que les contrôleurs ne sont pas assez nombreux. Hein. On est bien d'accord qu'ils sont...
Pour la France, oui, les contrôleurs ne sont pas assez nombreux. Mais il y a aussi un problème de mentalité. C'est-à-dire qu'en France, on se préoccupe beaucoup des contrôles. Il y a une culture administrative de contrôle, etc. Il y a des pays où c'est un petit peu le laisser-faire.
Pierre Slamiche, ça veut dire que demain, c'est le consommateur qui doit lui-même être le contrôleur avec typiquement votre site et votre association à but non lucratif Open Food Facts.
Alors oui, il y a effectivement la possibilité de contrôler par soi-même sur le côté nutritionnel et sur les ingrédients. Et il y a aussi des normes ISO, des labels de qualité sur lesquels le consommateur peut s'appuyer dans une certaine mesure, ainsi que le pays de production du produit. Ça donne souvent une bonne indication des réglementations que le producteur a dû respecter.
Ouais, mais on est bien d'accord que vous n'aurez jamais les moyens de la direction des douanes ou des fraudes.
Oui, et on voit que même les organismes de contrôle gouvernementaux ont des moyens quand même assez limités.
Très limités. Et moi, j'ai connu deux contrôles des fraudes en 20 ans. Hein, donc, ouais. Vous voyez, c'est très, 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 très rare, très limité, et il manque énormément de moyens.
Appelez-nous, les voisins, pour nous dire sur quels critères vous choisissez les produits que vous mangez. C'est difficile de s'y retrouver, hein, la fraude, le scandale sanitaire, tout simplement la transparence alimentaire, savoir ce que l'on achète et savoir si ce que l'on achète n'est pas très bon pour la santé, d'en être conscient, d'être vraiment informé en toute transparence. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. How you want me to take it, honey, when you keep singing lies to me? Yeah. Why you think I'm such a fool, it remains such mystery. Vous savez vraiment ce que vous achetez, les voisins, les voisines. On vient d'écouter Mutoni Drummer Queen, No More. Mais on repasse aux choses sérieuses. Qu'y a-t-il vraiment dans nos assiettes? On en discute avec vous, Christophe Brusset. Vous publiez Et maintenant, on mange quoi? Vous avez publié déjà Vous êtes fou d'avaler ça. Vous avez travaillé très longtemps dans l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, vous continuez de travailler dans l'industrie alimentaire, mais pour les animaux, ça sera un tout autre sujet. Et nous sommes également avec Pierre Slamiche.
Bonjour.
Qui a co-créé le Wikipédia des produits alimentaires, Open Food Facts. Pas facile à prononcer pour des francophones, et je précise bien que l'association est 100% française, 100% à but non lucratif, avec des contributeurs, maintenant, vous nous le disiez, dans le monde entier. Vous êtes parti de zéro en 2012.
Voilà, et maintenant, on a des contributeurs dans plus de 150 pays. On essaye vraiment de briser la barrière des langues et que tout le monde puisse avoir accès à cette transparence alimentaire que tout le monde réclame. En fait.
Et près de 650 000 produits référencés.
Voilà.
C'est pas beaucoup à l'échelle de la planète, bien évidemment.
C'est pas beaucoup, mais on a des milliers de nouveaux produits ajoutés par des contributeurs chaque jour.
Un auditeur nous poste le message suivant. Il est en région parisienne. C'est pas moi qui choisis ce que je consomme. Je suis au RSA, donc j'ai beau être attentif aux étiquettes, je n'ai pas vraiment ni les moyens ni le choix d'acheter ce qui est bon pour moi ou pour la planète. Ce sont des messages que vous recevez souvent, Christophe Brusset.
Oui, effectivement, et ça me révolte, parce que je considère que c'est pas parce que vous êtes pauvre ou avez peu de moyens que vous devez manger de la merde et vous empoisonner.
En même temps, vous avez dit vous-même que les prix les plus bas sont presque toujours la plus mauvaise qualité alimentaire.
Effectivement, mais l'alternative que moi je vois, c'est acheter des produits frais et bruts et prendre un peu de temps pour les cuisiner soi-même. Pour moi, c'est la seule solution aujourd'hui. Si on veut éviter les pizzas nocives premier prix, les pâtes déshydratées bourrées d'additifs, c'est de cuisiner soi-même, de faire ses pâtes, de faire sa sauce, de faire sa sauce tomate, de faire sa salade avec des produits frais, de consommer moins de produits chers, type les viandes ou les fruits de mer. Enfin, vous voyez, moi, j'ai changé mes habitudes aussi. Il y a un moment, je me suis dit, bon, il faut absolument que je réduise ma consommation de produits ultra transformés. L'alternative, c'est les produits frais.
Alors, les produits frais et puis les produits de base, comme vous dites. Sur le riz et sur les pâtes, est-ce que tout est si transparent que cela ?
Sur ces produits-là, déjà, la liste d'ingrédients est extrêmement limitée. Donc, on aura beaucoup moins d'additifs. Donc, on a quand même des produits relativement bruts.
Après, les pâtes, c'est un produit transformé, contrairement au riz.
Oui, mais bon, c'est essentiellement du blé dur. Donc, la liste d'ingrédients au niveau des pâtes, elle est extrêmement courte. Bon, après, vous avez des pâtes aux œufs, vous allez venir, etc. Donc, elle peut être un poil plus longue. Mais en termes de c'est un produit sec, donc il n'y a pas de conservateur, en général, il n'y a pas de colorant. Donc, ce sont quand même des produits très, très, avec une liste d'ingrédients très courte. Donc, c'est des produits plutôt sains. Sur ces genres de produits, il faut surtout être vigilant sur l'emballage ou les éventuels traitements qu'il peut y avoir. Il y a eu une grosse polémique en France il y a quelques années sur les huiles minérales. Je sais que l'association Foodwatch en avait parlé, par exemple. L'Europe aussi s'en était inquiétée. Avec la présence d'huiles minérales cancérigènes, dont beaucoup de produits secs qui étaient conditionnés dans des...
Qui servent à quoi ?
En fait, ce sont des polluants qu'on trouve dans les cartons recyclés.
D'accord. Donc voilà. C'est du polluant qui vient de l'emballage et non pas du processus de fabrication.
Mais on a aussi des huiles minérales qui viennent des auxiliaires technologiques. Donc on trouve aussi des huiles minérales dans certains contaminants non déclarés.
Pour séparer, par exemple, certains, pour décortiquer, pour...
Non, là, c'est utilisé pour les, par exemple, comme agent de démoulage, pour les gâteaux qui sont démoulés, comme agent de surface pour rendre les céréales plus brillantes.
Alors, le thé, c'est un produit très simple, c'est la boisson la plus consommée au monde. Vous dites attention.
Ah oui, effectivement, attention, parce que bon, dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, on exportait beaucoup de thé vert pour l'Afrique, ancienne Afrique francophone, pour les pays du Maghreb, puisqu'on sait que les pays type Algérie, Tunisie, Maroc consomment énormément de thé vert pour le thé traditionnel à la menthe. Ce thé vient essentiellement de Chine et pour ces produits-là, on a eu des gros problèmes de pesticides pendant très longtemps, jusqu'au jour où on était contrôlé par les fraudes, qu'ils ont bloqué nos lots pour finalement les libérer sous pression.
Donc on
politique.
Fait comment ? Vous conseillez d'acheter du thé dont on distingue bien les feuilles déjà, pas du thé en poudre broyé, mais comment savoir que ces feuilles ne sont pas contaminées aux métaux lourds ?
Il n'y a pas moyen de le savoir.
D'accord.
Aujourd'hui, les analyses de métaux lourds, de pesticides ne sont jamais données aux consommateurs, donc on ne peut pas le savoir, mais c'est pareil pour votre rayon, pour les produits frais, les pommes, les salades, les tomates, vous n'avez aucun moyen d'avoir accès à ces analyses-là, elles ne sont pas communiquées.
Les produits surgelés, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter des poissons congelés sur les bateaux, comme le disent les fabricants, et donc ils sont congelés vraiment quand ils viennent d'être pêchés, très frais, plutôt qu'un poisson moyen, cher, chez le poissonnier, ou pas ?
Sur le poissonnier, vous pouvez trouver des poissons qui ont été congelés en mer. Donc effectivement, plus le traitement est rapide après la récolte, on va dire, ou après
vous épargnez aucun doute là. Hein,
Non, il faut que le temps de traitement soit court. C'est-à-dire que si le poisson est pêché sur le bateau, effectivement, c'est mieux. Une usine qui va récolter des petits pois et les surgeler dans la journée, c'est mieux. Mais c'est pareil, c'est très difficile pour le consommateur d'avoir l'information. Chez le poissonnier, comment vous savez si le poisson a été congelé sur le bateau ou congelé à terre après plusieurs jours dans la glace ou autre ? C'est très difficile.
On n'a pas encore parlé des produits bio. La demande explose. Que faut-il penser des aliments bio aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'oriente, comme la demande explose, vers de plus en plus de fraudes, y compris aux produits bio ou pas ?
Il y a des fraudes de partout. Et comme le bio, effectivement, est vendu plus cher, il y a plus d'argent à se faire, ça attire effectivement beaucoup de fraudeurs. Ceci dit, le bio est quand même beaucoup plus contrôlé.
Et comme... Avec le logo le plus strict pour la France, hein, le fameux logo AB, qui est des plus stricts en Europe.
Le logo est un référentiel, c'est pas une garantie. C'est-à-dire que si moi, demain, je vous vends un produit...
Ah bon
Le logo, c'est une marque que vous mettez sur quelque chose. Mais si vous voulez frauder et faire croire aux gens que c'est du bio alors que ça n'en est pas, il vous suffit de mettre le logo.
Ah oui, d'accord.
C'est ce que je veux dire.
Là, c'est de la fraude.
Il y a de la fraude.
On ne frise pas avec la légalité, on est dans la fraude caractérisée.
La fraude existe et sur le bio, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs parce qu'il y a plus d'argent à se faire.
Ouais.
Ceci dit, il faut quand même aller vers le bio puisque par rapport aux produits standards, c'est quand même un mieux en termes de traitement.
En termes de traitement, vous dites néanmoins ne pas acheter de bio non européen.
Bah oui, parce que est-ce que c'est bien logique de faire venir de la farine de sarrasin de l'autre bout du monde, qui va vous consommer quasiment son équivalent en poids de pétrole. Donc vous avez un produit labellisé bio, mais qui n'a rien d'écologique quelque part. Donc il faut être un petit peu en ligne avec la démarche.
Il y a pas mal de PME spécialisées dans des produits historiquement de très grande qualité, biologiques, qui ont été rachetés ces derniers temps par des géants de l'agroalimentaire. Est-ce que ça va changer quelque chose, vous qui êtes du côté de l'agroalimentaire?
Je ne sais pas.
Il va y avoir une pression aux résultats financiers.
J'ai du mal à vous répondre. Effectivement, c'est dans l'air du temps que les consommateurs vont vers ce type de produit. Donc, les multinationales qui ont beaucoup d'argent vont effectivement essayer de racheter des marques connues avec une certaine garantie. Enfin bon. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne peux pas parler pour eux. Je ne suis pas toujours très optimiste, mais oui, pourquoi pas.
Mais pour faire suite à la question de la dernière question de l'auditeur sur le prix des produits, etc., on a constaté aussi que, comme la demande augmente, on voit des produits bio qui sont plus accessibles, plus entrée de gamme. Donc, c'est quand même, donc il y a plus de contrôle et c'est quand même un espoir de pouvoir avoir moins de traitements chimiques sur des produits plus accessibles.
On est d'accord. Mais il faut savoir une dernière remarque par rapport aux produits bio et à leur prix, c'est qu'il faut savoir, donc c'est l'UFC Que Choisir qui avait fait une enquête sur la répartition des marges et le niveau de marge sur les produits bio, et en fait ils se sont rendus compte que les distributeurs, donc en gros les supermarchés, se gavaient littéralement sur les produits bio, parce que les consommateurs avaient intégré que c'était plus cher, puisque ça coûtait plus cher à produire, mais les distributeurs en ont profité pour surmarger sur ces produits-là, et pour les rendre encore plus chers que ce qu'ils auraient dû être.
Alors finalement, conclusion, comment ouvrir les yeux sans non plus aller trop loin dans la défiance alimentaire? Parce qu'il y a aussi un risque que cette défiance, elle se retourne contre le consommateur lui-même, avec des politiques marketing exclusivement calculées pour répondre à cette défiance alimentaire, non?
Oui, il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas faire confiance aux publicités, il faut faire preuve de bon sens, hein, lire les listes d'ingrédients, regarder combien il y en a, quels sont exactement les produits. Open Food Fact, moi je suis partisan, j'ai l'application sur mon téléphone, donc c'est une bonne application, c'est un outil utile. Donc voilà,
il y a d'autres applications hein, d'ailleurs.
Alors oui, il y a plus de 100 réutilisations diverses d'Open Food Fact à peu près partout dans le monde.
Notamment UK qui est très populaire.
En France, on a 4-5 grandes applications, Foodvisor, Yuka, qui réutilisent nos données. On a également des équipes de recherche scientifique, une en France, une au Mexique, qui se servent des données que les consommateurs, que les citoyens produisent pour faire des travaux de recherche. Donc en fait, quand on scanne un produit avec Open Food Fact, qu'on prend des photos pour faire la transparence alimentaire, on aide aussi la recherche scientifique en nutrition, en diététique.
Et en même temps, vous permettez aussi à des start-up d'éclore. Vous n'êtes pas une start-up, vous êtes une association à but non lucratif, donc vous ne faites pas de bénéfices. On est bien d'accord. Hein.
Notre business plan, c'est la transparence alimentaire.
C'est ça, on est bien d'accord. Néanmoins, quand des startups se montent à partir de votre base de données pour elles aussi proposer une autre application sur smartphone.
On est très heureux parce que ça démultiplie notre impact en fait. C'est-à-dire que tous les produits vont être accessibles. On a par exemple des startups qui font ça pour les personnes qui sont végétariennes, véganes, qui veulent réduire leur consommation en huile de palme. Donc du coup, ça démultiplie vraiment l'impact des contributeurs et des citoyens qui contribuent à Open Food Fact.
Aujourd'hui, tout le monde, tous les pays peuvent avoir accès à la transparence alimentaire, à votre avis ?
Oui, tous les pays le méritent, tout le monde a le droit, c'est un droit fondamental à pouvoir avoir une information claire et de qualité dans tous les pays du monde, oui, quelle que soit sa langue.
Ça devrait être un droit, mais malheureusement, on s'aperçoit que l'industrie alimentaire a des moyens quasi illimités. Et ont les moyens de corrompre, on va dire, les élites politiques pour avoir des règlements qui vont toujours dans leur sens.
Voilà. Mais après, il y a bien sûr Internet, hein, qui est un formidable vecteur pour en savoir plus. Et merci Christophe Brusset, il faut vous lire. Et maintenant, on mange quoi? C'est très bien fichu, évidemment. Beaucoup, beaucoup d'infos très concrètes. Merci à vous, c'est publié chez Flammarion.
Merci
à vous Pierre Slamich, vice-président et cofondateur de l'association Open Food Fact, à retrouver bien sûr .org, le site internet de 7 milliards de voisins quand les enfants quittent la maison.